Vous écoutez Secret d'Histoire, Thérèse, la petite sainte de Lisieux. Deuxième partie.
À Noël 1886, Thérèse a maintenant 14 ans. Ses sœurs Pauline, puis Marie, sont entrées au Carmel de Lisieux. À Alençon, sa sœur Léonie fait une première tentative pour entrer chez les Clarisses. Thérèse, quant à elle, souffre toujours de son hypersensibilité maladive. Au retour dans la maison familiale, après la messe de minuit à la cathédrale Saint-Pierre, Louis Martin découvre que sa petite dernière a déposé cette année encore, comme une jeune enfant qui croit au Père Noël, ses souliers devant la cheminée. Et dans un moment d'agacement, il s'exclame « Heureusement que c'est la dernière année ». Thérèse a tout entendu. Sa sœur Céline, qui craint une crise de larmes, lui demande de monter dans sa chambre afin de ne pas gâcher la fête. Mais en montant cet escalier, Thérèse sent en elle quelque chose de nouveau, une grande force intérieure qui lui permet pour la première fois de dompter son émotion. À la surprise générale, elle redescend, un grand sourire aux lèvres, ouvre ses paquets et vient s'asseoir comme si de rien n'était à la table familiale. Avec cet événement qui pourrait paraître anodin, l'adolescente vient de passer un cap. Maintenant, elle en est sûre, elle a reçu la grâce de sortir de l'enfance. C'est donc une nouvelle Thérèse, pleine de force d'âme et résolument tournée vers les autres, qui aborde l'année 1887.
Cette année-là, à la une des journaux, il y a l'affaire des triples meurtres de la rue Montaigne.
Hélène Mongin, biographe.
Deux femmes et une enfant ont été égorgées. Thérèse l'apprend en lisant La Croix, en cachette de son père, et elle va se passionner pour le meurtrier Pranzini qui a été identifié.
Toutes les preuves sont accablantes contre lui. C'est l'image de celui qui ne respecte rien et qui d'ailleurs va clamer son innocence et refuser toute forme de repentir.
Henri Quentin, écrivain.
Pranzini est condamné à mort et Thérèse décide d'une certaine façon de sauver l'âme de Pranzini, de le prendre, comme elle le dit, comme son premier enfant.
Et du coup, elle va prier pour lui, faire offrir des messes, offrir tout ce qu'elle peut, en demandant à Jésus, elle dit « Moi, j'ai confiance en ta miséricorde, je sais que tu vas le sauver, mais peux-tu me donner un signe que c'est bien ce que tu attends de moi ?»
Et Pranzini, au moment de mourir, refuse de parler à l'aumônier, refuse de se confesser, monte fièrement à l'échafaud, et puis ultimement, avant de mourir, il se retourne et il demande le crucifix, et il embrasse trois fois le crucifix.
Thérèse le lit le lendemain dans la croix. Pour elle, c'est une confirmation de sa vocation à sauver les âmes, qu'elle va ensuite déployer tout au long de sa vie.
Désormais pour Thérèse, l'heure est venue d'annoncer son grand projet, consacrer sa vie à Jésus.
Thérèse va trouver son père dans le jardin des Buissonnets. Elle s'assoit près de lui et elle lui avoue à ce moment-là qu'elle veut devenir carmélite.
Frère Didier-Marie Gollet, biographe.
Et la réaction du papa est très belle. Dans un premier temps, il pleure. Et le papa va avoir un geste très beau. Il va aller près du mur et il va cueillir une petite fleur et il va l'offrir à Thérèse. C'est une petite fleur blanche et Thérèse remarque que quand son papa lui offre, alors qu'il l'a cueillie, mais les racines sont venues avec. Et pour Thérèse, ça sera le signe que son papa accepte que la petite fleur qu'est Thérèse aille s'enraciner dans une nouvelle terre qui est celle du Carmel.
Mais pour Thérèse, la route est encore longue. Il lui faut obtenir l'accord du supérieur du Carmel, le très sévère abbé de la Troète. Comme elle n'a pas encore 21 ans, la majorité à l'époque, l'homme d'église oppose son veto. Pour Thérèse et son père, une seule solution. Faire le voyage de Bayeux à 90 km pour convaincre le plus haut responsable religieux de la région, l'évêque.
Elle entre par une petite porte dans la cathédrale.
Monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux.
Et elle voit beaucoup de monde dans cette cathédrale. Il y a là l'évêque qui préside une cérémonie. Et elle apprend que c'est l'enterrement, les funérailles du maire de Bayeux. Son père, discrètement, va donc l'emmener près d'un autel sur le bas-côté pour prier et pour préparer cette rencontre avec l'évêque.
L'entrevue tant attendue a lieu dans l'après-midi à l'évêché, installé dans l'autel du doyen au pied de la cathédrale.
Elle n'avait pas encore 15 ans, elle allait les avoir au mois de janvier suivant. Donc elle a voulu se vieillir, et la manière de se vieillir, c'était de faire un chignon. Le papa la présente sa fille, l'évêque sourit en voyant son chignon, et Thérèse est très intimidée, c'est la première fois qu'elle parle à un évêque. Et Thérèse va balbutier en disant, ben voilà, je voudrais être religieuse depuis très longtemps. Et voilà que le vicaire général lui dit, mais enfin quand même pas depuis que vous ayez 2 ans. Enfin, elle m'a dit, mais si, depuis que je suis enfant, je veux être carmélite. Alors l'évêque essaie de lui dire, mais vous avez encore du temps devant vous. Et puis il s'adresse au papa en disant, mais votre fille est encore très jeune. Et là, il est très surpris de voir que le papa approuve la démarche de sa fille. Alors l'évêque lui dit, ben, nous verrons, nous attendrons. Et là, Thérèse fond en larmes.
L'évêque réserve sa réponse. Afin de faire patienter sa fille, Louis Martin a donc l'idée de l'emmener en pèlerinage à Rome. En compagnie de son père et de sa sœur Céline, Thérèse quitte la Normandie pour la première fois. Et ce long voyage commence d'abord par Paris.
Thérèse et Louis vont visiter de nombreux monuments, ils vont faire le tour de Paris. Et au fond, c'est un peu le moment où Thérèse va découvrir le monde, va découvrir l'immensité de la capitale.
La tour Eiffel sort de terre tout juste.
Laurence Panontin, conférencière.
Ils vont dans les grands magasins également. Thérèse découvre un ascenseur, hein, qui est une chose qui la marquera et dont elle reparlera plus tard quand elle sera au Carmel. Donc il y a énormément de lieux qu'ils découvrent à Paris. Ils vont à Notre-Dame, évidemment. Ce sont des choses qui auraient pu impressionner une fille de 15 ans qui sort de sa petite vie tranquille, on va dire, et de la petite commune de Lisieux. Et Thérèse n'est pas impressionnée du tout par tout cela.
Mais le lieu que Thérèse préfère à Paris, c'est la basilique Notre-Dame des Victoires, dans le 2e arrondissement. Elle attribue en effet à cette Vierge particulièrement vénérée dans sa famille la guérison de sa maladie. Et c'est pour elle une occasion de venir lui dire merci.
La première chose que les personnes font, c'est qu'elles viennent se mettre à genoux sous le regard de Marie. Et c'est ce que Thérèse a fait d'ailleurs.
Sœur Marie-Clotilde, bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre.
Et au pied de Notre-Dame des Victoires, elle a vraiment senti cette paix inonder son cœur. Elle dit non, j'ai vraiment été guérie par Marie. Marie est auprès de moi, elle est avec moi et je peux avancer justement dans la confiance. D'où cette joie profonde qu'elle a puisée ici au pied de Notre-Dame des Victoires.
Le voyage se poursuit. Thérèse découvre pour la première fois les montagnes suisses. Puis, la cité des Doges.
Dans les descriptions que Thérèse fait de Venise, elle reste marquée, pas du tout par ce qui peut nous sembler magnifique aujourd'hui. Ce qui la marque beaucoup, c'est l'endroit où il y avait les pauvres pendus, ou l'endroit où on pouvait pendre les prisonniers. Et elle parle du pont des Soupirs aussi, par lequel passaient les prisonniers. Pour Thérèse, Venise est une ville triste. Ouais.
À Bologne, les sœurs Martin descendent du train. Il faut bien avoir en tête que ce sont les deux plus jeunes du pèlerinage. Ce sont deux belles jeunes filles de 15 et 18 ans. sans entrer dans des stéréotypes faciles, le bolognais italien est peut-être séducteur et un peu baratineur, et un Italien prend Thérèse dans ses bras, comme pour l'emmener, ou la faire danser, ou la soulever, et Thérèse lui jette un regard qu'on appellerait un regard assez noir, pour être dissuasif, et l'Italien repart sans demander son reste. Mais Thérèse dira, j'ai découvert ce que c'était que le monde de la séduction, le monde dans lequel un homme n'est pas insensible à mes charmes.
Au bout de quelques semaines, les pèlerins arrivent enfin à Rome, la ville éternelle, où moururent en martyrs les premiers chrétiens.
Quand Thérèse arrive au Colisée, elle est très déçue parce qu'elle a l'impression de voir un amas de ruines. Ça ne ressemble pas du tout aux gravures qu'elle a pu voir.
Antoinette Guise-Castelnuovo, historienne.
Et puis en plus, il y a des barrières. Il y a un certain nombre d'endroits qui sont inaccessibles. Et elle se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir aller toucher le sol qui avait été imbibé du sang des martyrs.
Thérèse, quand elle a une idée, elle le fait, au risque d'être une touriste indisciplinée, dirait-on. Et elle arrive à se faufiler derrière une barrière, derrière une balustrade, elle appelle Céline, et toutes les deux, toutes seules, au milieu de cet endroit jugé dangereux et interdit au public, vont pouvoir se recueillir un instant en pensant aux martyrs dans cette arène romaine.
Le voyage à Rome est essentiel. Il est essentiel, de fait, par tout ce qu'elle découvre du monde et des beautés du monde.
On pensait qu'elle ferait des connaissances, que peut-être sa vocation, si sa vocation n'était pas solide, en voyant du pays, s'affaiblirait et qu'elle serait d'accord pour attendre sa majorité. En fait, elle ne pense qu'au Carmel, et même si elle apprécie tout ce qu'elle voit, elle le juge en fonction du Carmel. C'est-à-dire, je vois la mer, je vois la Côte d'Azur, je le verrai pour la dernière fois, mon Dieu, que c'est beau. C'est quelqu'un qui tient fermement à ses désirs, qui pense, elle l'écrit, « Si le Seigneur met en nous de grands désirs, c'est pour les réaliser. » Et elle le pensera toute sa vie, quoi qu'il lui arrive.
Après sa rencontre avec le pape, Thérèse doit se résigner à demeurer encore quelque temps de l'autre côté de la clôture. Mais la force de sa vocation est revenue aux oreilles de son évêque. Avec l'accord de Mère Marie de Gonzague, la prieure, il l'autorise à faire son entrée au Carmel, juste après Pâques, au printemps 1888.
Alors, en arrivant au Carmel, Thérèse dit que rien ne l'a surpris, qu'elle a trouvé la vie religieuse telle qu'elle se l'était représentée. Et elle ne s'était pas représentée un chemin parsemé de roses. Bien au contraire, elle dit que ses premiers temps au Carmel ont été parchemés d'épines plus que de roses.
Au Carmel de Lisieux, Thérèse retrouve deux de ses sœurs, entrées avant elle, Pauline et Marie, en religion, sœur Agnès de Jésus et sœur Marie du Sacré-Cœur. À la tête de la communauté, une prieure à la forte personnalité, Mère Marie de Gonzague.
Alors, Mère Marie de Gonzague est un personnage haut en couleur hein, dans le Carmel de Lisieux. C'est une grande femme avec ce visage très particulier qui montre bien une personnalité assez forte. Contrairement aux autres carmélites, elle est de haute naissance, elle vient de la grande noblesse, elle a reçu toute une éducation. C'est une femme qui est intelligente, qui est cultivée. Elle va exercer des responsabilités pendant plus de 20 ans au Carmel. Et c'est vrai que s'il fallait parler d'un défaut chez Mère Marie de Gonzague, c'est qu'elle aura du mal à se détacher du pouvoir.
Elle reconnaît en Thérèse quelqu'un de fort, qui a 15 ans quand elle entre au Carmel, c'est vrai, mais qu'il ne faut pas traiter comme une petite fille.
La mère prieure, Mère Marie de Gonzague, la traite sans indulgence aucune. Chaque fois qu'elle rencontre la prieure, elle doit baiser la terre en signe d'humilité. Il y a quelque chose qui s'appelle la culpe, qui est quand vous faites une faute, même la plus légère. Par exemple, vous avez un moment d'inattention pendant l'office. Eh bien, vous allez vous prosterner et baiser la terre pour demander pardon.
Marie de Gonzague est extrêmement sévère avec elle. C'était une époque où on pensait que la formation des religieuses passait par l'humilité et donc par l'humiliation.
Pour une fille qui est très affective, on n'est pas du tout dans une relation maternelle avec la prieure qu'elle appelle ma mère. C'est-à-dire que, en fait, c'est sa mère, mais en même temps, chaque fois qu'elle la voit, elle l'embrasse pas, elle baise la terre. Voilà. Donc ça, c'est aussi violent pour une jeune fille de 15 ans.
Mais deux mois après son arrivée, Thérèse est confrontée à une épreuve inattendue. Au Buissonnet, la santé de son papa suscite quelques inquiétudes.
Il est de plus en plus fatigué, il commence à avoir des trous de mémoire. Sa perruche préférée va mourir parce qu'il a oublié de la nourrir.
Il y a des petits signes avant-coureurs, des petites choses. Il commence à se négliger, lui qui était toujours très bien mis, il commence à se négliger.
Toute la famille commence à s'inquiéter et puis un beau jour, Louis disparaît. Pendant 4 jours, aucune nouvelle de Louis. Vous imaginez l'angoisse de ses filles. Panique dans la famille Martin. C'est Céline qui va prendre un petit peu les choses en main pendant que les 3 sœurs Martin sont effectivement derrière la clôture et ne peuvent rien faire. Et au bout de 4 jours, ils reçoivent une dépêche de Louis qui demande de l'argent pour pouvoir prendre un bateau. On retrouve Louis qui, en fait, avait fait une crise de délire. Il s'était imaginé partir au Canada pour devenir ermite. Et donc, tout ça, ce sont les symptômes d'une artériosclérose cérébrale avec des poussées d'urémie, ce qui est un langage barbare pour dire une maladie dégénérative du cerveau qui va lui faire perdre la tête.
Celui qu'elle admirait tellement, qu'elle appelait son roi chéri, qui était son exemple quand il priait, etc., elle le voit faire n'importe quoi. Donc, elle est vraiment ébranlée.
Malgré son angoisse, Thérèse ne perd pas de vue son objectif principal, rechercher la sainteté tout en étant cachée au sein du Carmel.
Au Carmel, c'est toujours les mêmes activités. Tout se joue finalement dans des petites choses. Et c'est donc dans ces petites choses, dans ces petits gestes, qu'elle va essayer de mettre tout l'amour de son cœur.
Et elle va chercher à rendre des services qui ne sont pas perceptibles ou qui ne sont pas visibles. Par exemple, si les sœurs abandonnent leur manteau dans un coin, elle va les plier et les ranger, mais sans dire que c'est elle qui l'a fait.
Elle fait des choses minuscules, et c'est comme ça qu'elle se rend compte qu'on peut chercher et trouver Dieu en toute chose, et qu'on peut faire n'importe quoi par amour, y compris ramasser une épingle, parce qu'à partir du moment où ça vous coûte, ça veut dire que c'est une chose importante.
Thérèse se lance finalement des petits défis, notamment dans ses difficultés avec d'autres sœurs.
Elle veut être capable d'embrasser et d'aimer et d'aider les personnes les plus rébarbatives du Carmel. C'est pour ça qu'elle va prendre en charge cette fameuse Mère Saint-Pierre qui est odieuse, sale, qui sent mauvais, revêche. Et elle va lui couper son pain, elle va aller la chercher. C'est elle qui va l'amener à l'office, c'est elle qui va la soigner, c'est elle qui va l'asseoir. Et au départ, cette vieille religieuse va redoubler en paroles et en gestes désagréables. Et à la fin, tout d'un coup, cette espèce de carcasse va fondre et elle dira « Mais c'est extraordinaire parce que non seulement cette petite, en plus de tout ce qu'elle fait, elle me sourit. » Et ça, c'est un des miracles de Thérèse, c'est son sourire.
C'est une mauvaise image de Thérèse de croire que c'est la petite fille mièvre qui réussit tout sans difficulté.
Sœur Marie, prieure du Carmel de Lisieux.
Elle en parle de ses combats. Être charitable avec ses sœurs, c'est pas facile. Sourire à une sœur qui vous énerve, c'est pas facile. Elle raconte comment une sœur qui lui déplaisait en tout ne s'est jamais aperçue que Thérèse avait du mal, pas de sympathie naturelle pour cette sœur. Mais Thérèse va toujours dire oui, aller plus loin.
Après quelques mois, Thérèse est acceptée par la communauté. Elle peut désormais franchir une étape décisive, la prise d'habit. Dans la chapelle du couvent, en présence de l'évêque et de sa famille, elle monte à l'autel au bras de son père, qui connaît alors un répit dans sa maladie.
La postulante pour cette cérémonie sort de clôture. Elle revêt une robe de mariée, avec un voile de mariée, puisqu'il y a vraiment la symbolique de l'union nuptiale.
On donne tout au Seigneur, donc, avec notre humanité, avec notre chair, avec notre sexualité. Donc c'est vrai que pour beaucoup de religieuses, la vie avec Dieu est une vie d'épousailles.
Et puis elle va recevoir 7 habits de carmélite. Et donc du coup, symboliquement, il y a quelque chose effectivement de très fort qui se joue à ce moment-là. C'est vraiment un moment d'entrée plus profond dans la communauté.
Achevé en 1954, moins de 30 ans après la canonisation de Thérèse, la basilique Sainte-Thérèse de Lisieux est l'une des plus grandes églises construites au XXe siècle. Grande de 4500 m², elle mesure 95 mètres de long et 95 mètres de haut. Elle comporte 2 nefs superposées, la basilique supérieure et la basilique inférieure. Tout ici nous parle de la spiritualité de Thérèse en réponse à l'amour de Dieu. Dans le cœur, les mosaïques représentent Dieu sous la forme de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Sous la coupole, Thérèse est couronnée au ciel. Les roses qu'elle tient dans ses mains symbolisent à la fois ses petits gestes d'amour qui ont été son chemin vers la sainteté et la pluie de grâce qu'elle a promis de faire tomber sur la terre une fois qu'elle serait au ciel. Le somptueux reliquaire a été offert par le pape Pie XI. Il contient les os du bras droit de Thérèse, celui qui lui a servi pour écrire cette histoire d'une âme qui doit la faire connaître du monde entier. On y lit inscription « J'ai écrit avec droiture des paroles de vérité ». Le 8 septembre 1890, Thérèse prononce les vœux de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Dans les jours qui précèdent, elle a pourtant été assaillie par le doute. Une voix intérieure lui murmure « Tu n'as pas la vocation ». En bonne carmélite, elle se confie humblement à sa prieure, Mère Marie de Gonzague, qui se contente d'éclater de rire. Par cette réaction surprenante et finalement pleine de bon sens, la prieure redonne toute sa paix et sa confiance à Thérèse. La cérémonie des vœux se déroule en clôture dans la salle du chapitre. En signe de mort au monde, la novice se prosterne sur le sol puis se relève. Pour Sœur Thérèse, il s'agit d'une nouvelle naissance. La voici devenue pleinement carmélite.
Pour Thérèse, 2 ans après son entrée au Carmel, jamais l'union à Jésus n'a été aussi forte. Mais cette profession religieuse tant désirée a aussi un goût amer. Car au Buissonnet, la santé mentale de Louis Martin a recommencé à se dégrader.
Louis Martin s'empare d'un revolver, veut défendre ses filles, mais est évidemment dangereux puisqu'on ne sait pas ce qui lui passe par la tête et sur qui il va tirer, ce qu'il voudra viser et ce qu'il voit. On appelle l'oncle qui vient d'urgence avec un autre homme, il désarme Louis Martin et Louis Martin est emmené directement au Bon Sauveur de Caen, donc à l'asile psychiatrique, dirait-on.
Dans Lisieux, ça murmure beaucoup. Les gens bavardent, les gens racontent, les gens disent que le père Martin, s'il perd la tête, c'est à cause de toutes ses filles qui sont entrées au Carmel.
Il n'y a pas de plus grande opprobre à l'époque. Hein. Louis va à l'asile. Dans toute la ville, il se murmure qu'il est sans doute atteint de syphilis ou alors que c'est la faute de Thérèse qui a brisé son cœur en entrant au Carmel. Donc vous imaginez l'épreuve que ça peut être pour ses filles qui avaient leur roi chéri tellement idolâtré qu'elles voient s'effondrer.
Mais vous imaginez bien que les rumeurs qui courent dans les yeux, elles franchissent allègrement les murs de clôture et que même certaines sœurs peuvent faire des petites remarques à Thérèse. Et du coup, elle va vraiment vivre une grande souffrance.
Alors Thérèse fait un lien avec un épisode qu'elle avait vécu enfant. Elle a vu par la fenêtre un homme qui se mettait un tablier sur la tête et qui traversait le jardin, puis disparaissait. Toute sa vie, elle s'était demandé que pouvait signifier cette image de son père au visage voilé. Et ce lien, elle le fait finalement à ce moment-là en disant « c'est l'humiliation de mon père qui va être unie à la passion du Christ ». Pendant sa passion, le Christ est voilé par des hommes qui se moquent de lui en disant « fais le prophète, dis-nous qui t'a frappé ». Et Thérèse dira « mon père devra vivre cette humiliation qui est celle de la passion ».
Et c'est très étonnant l'évolution spirituelle de Thérèse à cette époque parce qu'on a l'impression qu'elle contemple la passion du Christ et cette folie d'amour que Dieu a eue pour nous dans le visage de son Père. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'elle va choisir de s'appeler non plus seulement Thérèse de l'Enfant Jésus, mais Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face.
Thérèse s'abandonne au rythme du Carmel avec confiance et amour. Pour équilibrer les 6 heures de prière quotidienne, la règle conçue par Sainte Thérèse d'Avila a prévu plusieurs heures consacrées au travail.
Le Carmel de Lisieux fabriquait des images qu'il vendait, il fabriquait des ornements liturgiques qu'il vendait également, et il fabriquait ce qu'on appelle du pain d'autel, c'est-à-dire les hosties pour l'Eucharistie qu'il vendait également.
Les carmélites ont besoin de travailler à la fois le travail de la maison, le travail domestique et à la fois un travail pour gagner sa vie. Je pense que c'est une manière aussi de nous faire participer à la condition humaine. Tout homme travaille. Et c'est important de pouvoir aussi faire quelque chose de ses mains, que le corps soit présent dans ce travail.
Thérèse, elle, va avoir, quand elle va arriver, un travail comme seconde lingère. Donc ça va être de laver le linge, de l'entretenir, de le raccommoder. Nous avons une célèbre photo de Thérèse, qui a été prise par Sœur Geneviève, où on voit la communauté au lavoir en train de laver le linge. Un des battoirs qui servait à laver le linge, c'est-à-dire qu'on le mettait dans l'eau et on tapait dessus pour en extraire la saleté après l'avoir savonné. Vous savez qu'au Carmel, les sœurs font vœu de pauvreté. Une manière de manifester ce vœu de pauvreté, c'est de ne pas dire « mon tablier », mais « notre tablier ». Cependant, il vaut mieux que notre tablier fasse le tour de ma taille que celui de la voisine. Donc, on a un petit signe ici qui permet de reconnaître le tablier. Et Thérèse avait choisi, pour les choses qui étaient mises à sa disposition, à son usage, de broder un roseau. Et donc, tous les objets qui sont marqués dans le roseau, on sait qu'ils étaient à l'usage spécifique de Thérèse, sans lui appartenir. C'est-à-dire, voilà, c'était à son usage, mais ça restait le bien de la communauté. Vous avez le fameux sabot. Alors, les sœurs avaient habituellement des alpargates, c'est-à-dire des espèces de sandales ou d'espadrilles, qui étaient fabrication maison. Et quand elles allaient au lavoir, il y avait beaucoup d'eau autour du lavoir. Et donc, ces alpargates de cordes et de chanvre se seraient très vite abîmées. Donc, elles les mettaient dans des sabots de bois. Et sur le sabot de bois, on peut voir peint le petit roseau, qui signifie que ce sabot était à l'usage de Sainte Thérèse. Ah, c'était des moments joyeux, le lavoir. Il y avait un côté extrêmement festif, même si c'était pas le moment des échanges, parce qu'il fallait travailler, mais il y avait ce côté de toute la communauté rassemblée pour accomplir un travail ensemble.
À la fin de l'année 1891, la sérénité de la communauté est soumise à rude épreuve. Les sœurs sont frappées par une épidémie d'influenza, une forme de grippe particulièrement agressive.
Maladie qui va toucher la quasi-totalité des religieuses, sauf deux ou trois, dont Thérèse. Et Thérèse va être au chevet des religieuses, elle va assurer aussi les temps de prière. C'est le moment pour Thérèse d'une nouvelle expérience, une expérience brutale de la mort.
La mort régnait partout. Les plus malades étaient soignés par celles qui se traînaient à peine. Un matin, en me levant, j'eus le pressentiment que sœur Madeleine était morte. Je la vis en effet, habillée et couchée sur sa paillasse. Je n'eus pas la moindre frayeur. Voyant qu'elle n'avait pas de cierge, j'allai lui en chercher, ainsi qu'une couronne de roses.
Et finalement, encore une fois, elle révèle forme de force de caractère et de résistance qui était assez inattendue dans cette situation-là.
La force de Thérèse va impressionner très favorablement l'abbé de la Troète. Il reconnaît devant Thérèse que finalement il s'était trompé en lui refusant l'accès au Carmel.
C'est à ce moment que Louis Martin, après 3 ans passés dans un asile d'aliénés, revient à Lisieux. Désormais confié aux bons soins de Céline et de Léonie, il est installé en fauteuil roulant.
Et à peine est-il arrivé qu'on l'emmène voir ses filles au Carmel. Ce sera en fait la dernière fois. À ce moment-là, Céline le décrit comme quelqu'un qui a retrouvé un peu l'état d'esprit d'un enfant, tout en comprenant plus qu'un enfant, mais il ne peut pas s'exprimer. Il voit ses filles, il est ému aux larmes. Ses filles lui parlent, lui témoignent tout leur amour. Et là, Louis a simplement ce geste. Il lève le doigt vers le ciel et il murmure un « au ciel », comme un adieu, comme un au revoir.
Pour les filles Martin, c'est un rendez-vous qu'il leur donne, au ciel, on se verra au ciel. C'est la dernière image que Thérèse va garder de son père.
2 ans plus tard, le roi chéri de Thérèse s'éteindra paisiblement, à la campagne, chez son beau-frère Guérin. Après l'avoir accompagné jusqu'au bout, Céline, la dernière des sœurs Martin encore dans le monde, fait le choix de devenir carmélite à son tour.
Au Carmel, en ce mois de février 1893, l'Assemblée des Sœurs, qu'on appelle le chapitre, s'apprête à élire la prieure, la responsable de la communauté. C'est un événement, car l'élection qui se fait à bulletin secret n'a lieu que tous les 3 ans. La prieure sortante, Mère Marie de Gonzague, qui a été réélue plusieurs fois de suite, n'a pas le droit de se représenter. Et pour lui succéder, les sœurs choisissent d'élire sœur Agnès de Jésus, qui n'est autre que Pauline, la sœur aînée de Thérèse.
C'est une femme de tête, avec une forte personnalité, mais enfin ça c'est un peu le cas de toutes les sœurs Martin. Elle est très intelligente, pleine de bon sens, les pieds sur terre, très fine, et puis assez artiste aussi. Pour Thérèse, c'est une joie immense puisque sa mère, Pauline, est à nouveau sa mère puisque une religieuse qui devient prieure est appelée mère par ses consœurs. Donc elle dira « vous qui êtes deux fois ma mère » et c'est vrai que c'est une entrée dans une période très particulière de la vie de Thérèse où du coup elle va pouvoir se déployer.
C'est à partir de là que Thérèse va écrire de nombreuses prières, certaines qui seront plus tard mises en chanson, va écrire des petites pièces de théâtre, deux pièces sur Jeanne d'Arc, une pièce sur l'enfant Jésus.
Elle écrit 8 pièces de théâtre où elle était à la fois l'écrivain, le metteur en scène et souvent l'actrice principale.
On pourrait dire d'une certaine façon que sœur Agnès, une fois qu'elle est prieure, va mettre en avant les talents artistiques de sa petite sœur.
Et un beau soir, chose qui arrive très rarement pendant la récréation, les sœurs sont réunies autour de la cheminée. Et là, Thérèse, avec son humour habituel, raconte des anecdotes de son enfance. Et c'est Marie qui dit « Mais enfin, il faudrait qu'elle écrive tout ça, ça ferait tellement plaisir à tout le monde. » Alors, Mère Agnès est un peu circonspecte, Thérèse, elle éclate de rire tellement elle ne prend pas la chose au sérieux. Mais Marie insiste en disant « Non, vous savez, elle ne restera peut-être pas longtemps sur la terre, c'est important qu'elle écrive. » Alors, Mère Agnès lui dit « Bah, écoutez, je vous donne mission d'écrire les souvenirs de votre enfance pour notre plaisir à toutes et vous avez un an pour le faire. » Dans la vie d'une carmélite, il y a une ou deux heures de liberté par jour. Et là, Thérèse, dans sa petite cellule, s'assoit sur son petit escabeau, prend son écritoire et va couvrir de ses petites lignes un petit cahier.
Avant de prendre la plume, je me suis agenouillée devant la statue de Marie, celle qui nous a donné tant de preuves de maternelle préférence de la reine du ciel pour notre famille. Je l'ai suppliée de garder ma main afin que je ne trace pas une seule ligne qui ne lui soit agréable. » C'est un manuscrit qui montre l'action d'écrivain de Thérèse extrêmement vivante et qui nous rend Thérèse extrêmement proche, finalement.
Thérèse raconte ses souvenirs des Buissonnais. Elle dit que ça n'est pas une autobiographie. C'est, au fond, des petits moments de grâce de ma relation avec Dieu. Sachant que ce livre, ce petit livret, est amené à être offert à Mère Agnès pour sa fête.
Ses sœurs vont lui demander de raconter son enfance. C'est pas tout à fait ce qu'elle va faire. Elle va relire, elle, son enfance à la lumière de l'amour de Dieu sur elle. Et donc, elle va faire une relecture où elle va comprendre comment Dieu lui a fait vivre des choses. Par exemple, la grâce de Noël, elle va pouvoir voir les effets de la grâce de Noël sur la suite de sa vie. Chose qu'elle n'a peut-être pas vue au moment où la grâce de Noël s'est passée. Au moment de la grâce de Noël, elle a peut-être senti qu'il s'est passé quelque chose, que Dieu était là, qu'il y avait un tournant, mais elle n'a pas pris la mesure de tout ce que ce tournant allait faire en elle.
Donc il y a quelque chose qui est formidable, c'est l'attention de cette petite fille depuis sa tendre enfance à tout ce qui l'entoure et tout ce qu'elle va pouvoir considérer comme des signes que lui envoie le Christ pour trouver la voie, parce qu'elle veut être une sainte, mais elle ne sait pas exactement comment elle va l'être encore.
Thérèse a bien conscience qu'elle est un instrument dans les mains du Seigneur et qu'il se sert d'elle. C'est là où elle dit qu'elle est comme un petit pinceau.
Et ce texte, elle dit deux choses, qu'il fera du bien aux âmes et qu'il fera en sorte qu'elle soit très aimée par les gens.
Vous venez d'écouter Secrets d'Histoire. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée. Secrets d'Histoire est un podcast d'Initial Studio, adapté de l'émission de télévision éponyme, produite par la Société européenne de production. Cet épisode a été écrit et réalisé par Antoine Demeaux. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg, assistée de Marie Agassan. Montage, Camille Legras, avec la voix d'Isabelle Benadj.